Bon, évidemment, depuis une semaine maintenant, on parle de l'affaire Weinstein aux États-Unis, ce producteur, ce roi du cinéma qui a dû quitter de force, qui a été sacré d'or de sa compagnie pour, à la base du harcèlement sexuel, sont arrivés après des accusations de viol. Là, il est en thérapie, sa femme l'a laissé. Et évidemment, ce matin, on va prendre un peu de temps pour parler des réactions au Québec. Et on va se parler franchement du harcèlement sexuel dans le milieu artistique.
Oui, j'ai approché la comédienne Maxime Roy parce qu'elle a une carrière tant à Los Angeles, au Canada anglais, qu'au Québec. D'abord, sur l'affaire Harvey Weinstein, Maxime Roy, elle est catégorique. Tout le monde savait à Hollywood. Le message, il était très clair entre les actrices. Tu ne vas jamais seule dans un meeting avec Harvey Weinstein. Elle ne croit pas du tout là, à ces messages-là de gens qui se disent surpris et choqués. Mais la principale raison pour laquelle le secret a été tenu par tout le monde, c'est la peur de ne pas travailler. C'est cette vulnérabilité-là qui existe, particulièrement dans le milieu de la télé et du cinéma, qui est basé sur un processus d'audition, ici même, au Québec.
Que ce soit des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel ou une simple injustice, les gens disent jamais ce qui se passe vraiment parce qu'on a peur de plus jamais travailler. Et tu te fais barrer très, très, très rapidement. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 22 ans. De me faire barrer d'une maison de production de pub parce que j'ai tourné une pub puis je voulais pas sortir avec le producteur qui avait, je pense, 20 ans de plus que moi à l'époque, puis j'ai dit non devant tout le monde, puis je pense qu'il s'est senti humilié, puis après ça, j'étais barrée de cette boîte de production-là.
Je lui ai dit qu'elle avait du courage de se tenir, d'être aussi ferme, mais elle m'a dit qu'elle s'est souvent retrouvée dans des situations de malaise, encore récemment, de devoir repousser des invitations avec ce que nous, entre filles, on appelle notre petit rire niaiseux.
Je disais non, mais oui, mon petit rire niaiseux, il était là souvent pour essayer de m'en sortir, puis de rire de nervosité aussi, puis de dire que tu me mets dans une position vraiment malaisante. Tu es dans une position de pouvoir, tu ne fais pas ça, tu sais. Donc oui, j'ai ri souvent, non, c'est mieux pas, tu sais, comme essayer de désamorcer la situation, essayer de rendre ça léger, mais ça l'est pas léger. Aujourd'hui, je fais plus ça, je suis beaucoup plus ferme.
Mais ça veut dire qu'elle subit ça encore aujourd'hui?
Oui, encore récemment, elle me l'a dit, puis c'est des invitations à souper, alors qu'on est dans un contexte professionnel, ça se fait pas. Puis j'ai envie de faire une parenthèse sur ce fameux petit rire niaiseux. Si vous l'entendez, messieurs, ce rire qui n'est pas franc et qui respire le malaise, décodez ceci. Ça veut dire, je suis pas à l'aise avec ce que tu viens de me dire, mais ma position ne me donne pas le pouvoir de t'envoyer promener, alors j'utilise mon petit rire niaiseux pour essayer de me sortir. Et ça existe dans tous les milieux de travail, en passant, c'est pas juste dans le milieu artistique. Parmi les raisons qui ont permis à Harvey Weinstein, selon Maxime Roy, de durer aussi longtemps, c'est aussi la question de l'argent. Peut-être que si les poursuites avaient été pour des montants plus élevés, il y a quelqu'un à l'interne qui aurait fini par cette année puis par dire « Hey, tu nous coûtes cher. »
Ben là, il paraît que le conseil d'administration, j'ai lu ça ce matin, là, a été saisi de ces règlements-là pour la première fois en 2015.
OK, donc avant ça, il l'a fait de son argent.
Ben, ou en tout cas, il l'a réglé parce que les montants n'étaient pas si élevés
c'est
que
ça.
Donc, il a peut-être
pas de
été capable
de...
Du
côté de Fox, là, on parlait de millions de dollars.
Oui, lui, c'était là, c'est autre chose.
Pour Harvey Weinstein, c'était peut-être de l'argent de poche. Et pendant qu'on est là, il y a aussi cette bonne vieille excuse qu'on entend souvent.
Puis, tu sais, c'est d'arrêter aussi de prendre ça à la légère, de faire, ben voyons, donc il est de même, tu sais. Ça, on l'entend souvent, là, ben oui, mais tu sais, il est intense. Puis, oui, il est comme ça. Puis, il aime les femmes. Ça, tu l'entends. Ouais, il aime assez. Il aime les femmes. Qu'est-ce que tu veux, il aime les femmes? Mais non, c'est pas aimer les femmes, ça. Faire dire écoute, j'allais dire quelque chose, ça se dit même pas, là. Mais tu sais, en pleine audition, tu te fais passer des commentaires, tu fais, mais ça se dit pas, ça. Tu me mets vraiment mal à l'aise en ce moment, puis tu me mets pas dans une bonne position pour faire mon métier, tu sais.
Ce qu'on pourrait traduire donc par des commentaires de mon oncle. Et ça aussi, c'est pas exclusif, encore une fois, au milieu
non,
des
non,
arts.
Non.
On l'avait vu avec l'affaire Marcel Aubut. Mais je lui ai demandé si parfois elle n'est pas carrément découragée de son métier d'actrice.
J'ai une amie qui a raconté aujourd'hui justement une histoire qu'elle a fait une audition pour une pub, puis le réalisateur ou le producteur, je ne sais pas si c'était lequel, a commencé à se déshabiller pendant son audition. Oui, puis moi, ça m'est arrivé là de me faire tripoter, là. Ça m'est arrivé, tu sais. Puis, il dit, oui, t'as un dégoût profond. Tu dis, mais je vais arrêter. Ça n'a pas de bon sens. Je veux plus me mettre dans ces situations-là. Puis ça, tu sais pas trop comment agir parce que tu veux pas, faut que tu sois fine, mais pas trop. Faut pas que t'envoies un mauvais message. Faut pas que, c'est très, oui, ça, mon Dieu. aussi, moi, j'ai le goût de lâcher le métier par rapport à des trucs, être d'injustice profonde. Faut vraiment que t'aimes, que t'oublies, puis que tu reviennes à l'essentiel de t'as envie de raconter une histoire, puis c'est pour ça que tu fais ce métier-là.
Et il y a autre chose aussi qu'elle me disait, Maxime Roy, c'est qu'elle veut pas que ce soit un combat homme contre femme. C'est une question d'abus de pouvoir. Fait qu'il y a peut-être effectivement des femmes aussi qui sont en position de pouvoir qui font du harcèlement psychologique. Là. C'est une question de pouvoir. Et j'en ai parlé hier aussi avec Denise Robert, productrice, parce que c'est pas juste aux comédiennes à porter ce fardeau-là. C'est important, ça prend des alliés. On peut écouter Denise Robert.
Ça arrive. On en a eu des exemples et je suis sûre qu'on va en découvrir des nouveaux exemples. Écoutez, peut-être avec ce qui se passe aux États-Unis, puis qu'il y en a de plus en plus de gens qui s'expriment et qui s'indignent de ça aussi. Moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'il y a un seul homme qui a défendu sa blonde. Brad Pitt, il était jeune acteur à l'époque, qui a osé aller se mettre debout devant, puis il dit « Tu touches pas, tu fais plus jamais ça, parce que moi, je te dénonce. » C'est quand même, tu sais, ça démontre aussi la peur du côté de ceux qui sont conscients des agressions et qui n'en parlent pas de peur de, je sais pas, de représailles.
L'histoire de Brad Pitt, c'est à l'époque avec Gwyneth Paltrow, qui, elle, donc, avait reçu des avances de la part d'Harvey Weinstein. Et justement, Denise Robert, elle a travaillé directement avec Weinstein en 2003-2004 pour Les Invasions barbares. En sortant de la projection de presse au Festival de Cannes, Harvey Weinstein a appelé Denise Robert. Et il était si influent que, sur le coup, elle pensait que c'était son associé qui lui faisait une blague. Il a appelé, il dit « Hi, I'm Harvey Weinstein », elle a répondu « And I'm the Queen of England ». Et là, finalement, il s'est rendu compte que c'était véritablement lui qui avait eu un coup de cœur pour le film. Il a distribué le film aux États-Unis. Il a fait une si bonne campagne, tu sais, quand on dit qu'il était influent, qu'ils ont gagné l'Oscar. Et c'est entre autres pour le talent de Denis Arcand, on s'entend, mais parce que Harvey Weinstein a fait une grosse campagne autour de ce film-là. Elle n'a pas été témoin de déviance sexuelle, par contre, de son comportement colérique. Il y a quelqu'un qui lui a carrément expliqué qu'on appelait ça la méthode Miramax.
La méthode Miramax, c'est-à-dire tu mords quelqu'un avant que la personne te morde. Alors, c'est une culture et puis, ça m'a un peu surpris, mais effectivement, c'est un type de culture, de façon de faire les affaires. Il prenait jamais non comme réponse et puis il s'assurait qu'il atteignait les buts qu'il voulait atteindre.
Jamais non comme réponse, on l'a entendu l'enregistrement là, avec cette pauvre top modèle dans un hôtel en 2015. Pour revenir au Québec, j'ai aussi parlé, bien sûr, avec Sophie Préjean, qui est la présidente de l'Union des artistes, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les artistes qui sont prises avec ces questions-là d'harcèlement sexuel. Et pour ce qui se passe en termes d'audition, c'est sûr que c'est plus complexe parce que l'UDA, c'est un syndicat. Donc, eux, ils peuvent agir en vertu d'un contrat. Mais quand tu es en audition, tu ne l'as pas encore, ton contrat. Alors, eux, ils ont pas vraiment d'impact à ce moment-là. À partir du moment où c'est signé, où le harcèlement se passe sur un plateau, là, il y a plus de possibilités pour l'UDA.
Mais dans nos ententes collectives, il y a des procédures, il y a des clauses, en fait, dans nos ententes collectives qui protègent de ça. Alors, si tu veux poursuivre le producteur, on va passer par un grief, on va faire des griefs. Puis la chose la plus difficile, c'est que les personnes qui vivent des situations d'harcèlement, qu'elles soient sexuelles ou psychologiques, ils poursuivent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des travailleurs autonomes. Quand ils poursuivent, on est là. On peut le faire avec eux. On a une avocate qui s'appelle Christine Fortin à l'interne qui va le regarder. On va faire un suivi, soutenir la personne dans toutes ses démarches jusqu'à la fin, parce que c'est arrivé qu'il y en a eu des cas qui se sont rendus plus loin. Jusqu'à la fin, on va être là. Mais la plupart ne le font pas.
Il y en a qui osent quand même. On a vu cet été le cas de Pierre Marchand, qui est un producteur en musique, qui a été accusé, dont on attend toujours le procès. Mais bon, on voit que ça s'est rendu jusqu'à une accusation formelle. Elle me disait que dans le milieu de la danse, c'est très délicat aussi parce que c'est encore un plus petit milieu. Donc, quand ça se passe, tu ne veux pas dénoncer parce que tu sais que tu ne travailleras plus. J'ai l'impression que c'est un peu comme pour l'intimidation, c'est les gens autour. T'sais, il vient le temps où, quand toi, t'en es victime, tu peux pas parler, mais s'il y a des gens autour qui le voient, Maxime Roy me disait, tu sais, des fois, dans les roulottes, là, les murs sont pas épais. Le comédien à côté, il entend ce qui se passe. Il voit si le producteur est fatigant, si le réalisateur insiste un peu trop.
Je vais juste te faire une parenthèse. On me dit que le réseau CBS va présenter ce matin, sous peu, là, à peu près une demi-heure, une entrevue avec un ancien adjoint de Weinstein sur sa façon d'opérer. Alors, on risque d'avoir d'autres, ou des confirmations, en tout cas. De...
Mais il avait des complices, c'est ce qu'elle me disait.
Ben, c'est, ça ressemble à ça, là.
Elle dit, d'abord, c'est ça, il y avait ses adjoints qui travaillaient avec lui, mais même un agent qui dit à sa comédienne, vas-y, va le rencontrer. Il devient complice. Il le sait très bien que cet homme-là agissait de cette façon-là. Donc, il y a ça aussi qui est implicite, c'est les gens autour, ça prend des alliés, ça prend des Brad Pitt qui vont aller défendre.
Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, là, on ne sait jamais, mais un jour, on m'a raconté qu'un réalisateur tournait beaucoup de scènes de nus. Jugée pas très pertinente, mais bon, c'est toujours... Et que ces scènes de nus tombaient au montage du film. Autrement dit qu'il faisait ça pour rien.
Ouais.
Pour assouvir ses pulsions. Mais c'était jamais dans le montage final du film. Il faisait quoi avec les scènes qui restent?
Ouais. Et ça, ce film disait, ça c'est dans les contrats, entre autres. Les scènes de nus, jusqu'à la fin, t'as le droit de refuser de les faire. Mais elle sait qu'il y a bien des comédiennes. Elle, aujourd'hui, elle a 50 ans, puis elle est capable de s'affirmer. Mais si jamais ça arrive, on a le droit de dire non. Puis au départ, même si on avait accepté, finalement, on change d'idée jusqu'à la dernière minute. C'est comme le consentement sexuel. Tu peux refuser de faire une scène de nus si tu juges que c'est complètement inutile à l'histoire. Et ça arrive quand même assez souvent, que c'est un peu gratuit.
Merci, merci. On vous retrouve plus tard, 7h35 minutes.